Je suis heureux de vous retrouver ce matin devant une assemblée aussi nombreuse. Ces derniers dimanches, c'était un petit peu clairsemé. Je suis content de retrouver certains des visages. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous la parole de Dieu, et c'est un plaisir pour moi de le faire. La parole de Dieu nous enseigne, nous instruit, nous reprend aussi. Elle nous réconforte, elle nous apprend des choses. Et toute la parole de Dieu le fait, toute la parole. J'en entends qui disent le Nouveau Testament, oui, mais l'Ancien Testament, c'est plus dur à lire. L'Ancien Testament, c'est beaucoup de guerres, des généalogies, des choses compliquées. On a du mal à lire l'Ancien Testament. C'est un peu réducteur de parler de l'Ancien Testament en disant qu'il n'y a que des généalogies ou que des récits de guerre. Je peux comprendre qu'il y ait des difficultés à lire l'Ancien Testament. Mais l'Ancien Testament, c'est quand même la première partie de la Bible. S'il n'y avait pas l'Ancien Testament, il n'y aurait pas eu le Nouveau. C'est important de se pencher sur l'Ancien Testament pour comprendre le Nouveau Testament. Et puis, il n'y a pas que des livres qui parlent de guerre, il y a aussi des livres historiques, il y a aussi des livres prophétiques, il y a aussi des livres de poèmes comme les psaumes, il y a aussi des proverbes. L'Ancien Testament est un trésor et j'aimerais qu'ensemble on puisse découvrir ce trésor qu'est l'Ancien Testament. L'Ancien Testament nous aide à comprendre que les hommes sont bien des hommes et que Dieu est Dieu. Et que la seule solution au problème de l'homme, elle va arriver dans le Nouveau Testament. Que ce qui a été annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament va bien effectivement arriver dans le Nouveau Testament. Alors je vous propose d'étudier ensemble pendant une certaine série, pendant ces prochains mois, d'étudier avec moi le livre de Néhémie. Le livre de Néhémie, c'est un livre qui est peut-être connu dans les histoires d'école du dimanche. On parle de construction. Mais voici la question que j'aimerais qu'on se pose ensemble, en tant qu'Église de ce long cours, ici. On est en train de chercher quel pourrait être notre projet d'Église, la vision pour l'Église. Et c'est un travail qui nécessite du temps. Alors je vous propose de faire ensemble et de chercher quelle est la vision pour notre Église ensemble. Et répondre à cette question, comment Néhémie peut-il nous aider à construire une vision pour l'Église de ce long cours et le faire selon Dieu? Le livre de Néhémie, c'est en fait un seul et même livre avec Esdras, qui est juste avant. Dans la Bible hébraïque, c'est un seul et même livre, on les appelait même Esdras 1 et Esdras 2. En réalité, ces deux livres ont pour point commun la ville de Jérusalem. Jérusalem, c'est pas si vieux que ça. En ce moment, on en entend presque tous les jours parler de Jérusalem. Il y a une dimension particulière de cette ville. Pour les Juifs, c'est évidemment une notion identitaire, mais il y a aussi une dimension spirituelle qui est assez immense, et j'aimerais qu'on puisse s'en rendre compte en étudiant ce livre de Néhémie. Et on le sait, on la connaît, cette ville, Jérusalem. Comment est-ce qu'on l'appelle d'autre? C'est quoi son nom? Sion? La cité de David? La cité de Dieu? La ville sainte? C'est comme ça qu'on l'appelle. Cette ville a été conquise par David. David en a fait une capitale. Salomon y a construit le temple. Et puis elle fut détruite par Nabucodonosor. Et je vous ai mis quelques passages, c'est surtout dans de Samuel et dans deux chroniques qu'on peut voir cette histoire de Jérusalem. Ça, c'est pour l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau, on parle aussi de Jérusalem. Jérusalem, Jésus y entra sur un ânon comme un roi, acclamé par la foule. Et peu de temps après, il y fut crucifié sur le mont Golgotha. Le Saint-Esprit y a été répandu dans les Actes. Et c'est ici que l'Église, c'est à Jérusalem que l'Église a commencé, que la propagation aussi de l'Évangile a commencé. C'était le point géographique de départ pour la proclamation de la bonne nouvelle. Donc il y avait quelque chose de bien spécial avec cette ville de Jérusalem. Mais le récit que Néhémie nous relate, parce que c'est lui l'auteur du livre de Néhémie, il s'est passé bien avant tout cela. Et pour faire court et très rapide, je vais vous faire un petit peu d'histoire, mais je serai très rapide. On va y revenir plusieurs fois. À la mort de Salomon, 928 avant Jésus-Christ, le royaume d'Israël est scindé en deux, Israël au nord, Juda au sud. Israël au nord, qui pendant 200 ans va s'éloigner de Dieu et finalement tomber aux mains des Assyriens, en 722. Et ensuite, c'est Juda au sud, qui elle aussi sera infidèle et va être conquise par Babylone en 597 avant Jésus-Christ. Et ils seront, tous les habitants seront donc déportés à Babylone. Ensuite, c'est le roi Cyrus de Perse qui va conquérir Babylone en 539. Donc j'avais montré, voilà, ça c'est la déportation en 587 des Juifs jusqu'à Babylone. Et en 536, c'est donc ce fameux roi Cyrus, en fait son successeur Artaxerxès, qui va envoyer un groupe de Juifs mené par Esdras pour commencer à reconstruire le temple de Jérusalem. L'accueil est plutôt froid de la part des Juifs qui n'ont pas été déportés, et ceux et les non-Juifs qui sont restés à Jérusalem. Il y a eu beaucoup d'opposition, le temple a eu beaucoup de mal à être reconstruit. Et c'est là où débute notre récit. Nous sommes en 446, et Néhémie, qui habite la ville de Suse, donc dans le royaume de Perse, apprend que le temple a effectivement été reconstruit, mais la muraille de Jérusalem est encore entièrement détruite. Et vous allez voir la réaction de Néhémie, la réaction à un appel pressant, et qui va conclure par une réponse sage. Et donc voilà ce que je voudrais vous présenter ce matin en trois points. D'abord un constat, la vision d'une église, ou la vision que Néhémie a eue, c'est d'abord une information. Ensuite une réaction. La vision, c'est une prise de conscience, et ensuite une prière. La vision se fait toujours en relation avec Dieu. Je lis dans Néhémie le premier chapitre. Histoire de Néhémie, fils de Hakalia. La 20e année du règne d'Artaxerxès, au mois de Kislev, je me trouvais dans la citadelle de Suse. Anani, l'un de mes parents, arriva avec un groupe d'hommes de Juda. Je leur demandai des nouvelles du reste des Juifs revenus d'exil et de Jérusalem. Ils me répondirent, « Ceux qui ont survécu à la captivité et qui vivent dans la province de Juda se trouvent dans une grande misère et dans une situation très humiliante. Il y a des brèches dans la muraille de Jérusalem et ses portes ont été détruites par le feu. » Lorsque j'entendis ces nouvelles, je m'assis et je me mis à pleurer. Pendant plusieurs jours, je restais abattu. Je jeûnais et je priais constamment devant le Dieu du ciel. Je suppliais, « Ah, éternel Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui restes fidèle à ton alliance et qui conserves ta bienveillance à ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements, prête attention à la prière de ton serviteur. Que tes yeux soient ouverts pour voir que je suis en prière devant toi en ce moment. » Jour et nuit, pour intercéder en faveur de tes serviteurs, les Israélites, et pour confesser leurs péchés. Car nous avons péché contre toi. Oui, moi et mon peuple, nous avons péché. Nous sommes vraiment coupables envers toi. car nous avons désobéi aux commandements, aux ordonnances et aux lois que tu as données à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi cependant, je te prie, de ces paroles que tu as ordonnées à ton serviteur Moïse de prononcer. Lorsque vous serez infidèles, je vous disperserai parmi les peuples païens. Mais si vous revenez à moi pour obéir à mes commandements et les appliquer, alors même si vous vous trouvez éloignés jusqu'aux extrémités de la terre, je vous rassemblerai et je vous ramènerai de là au lieu que j'ai choisi pour y établir ma présence. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as délivré par ta grande force et par tes interventions puissantes. Je t'en prie, Seigneur, veuille prêter attention à la prière de ton serviteur et à celle de tes autres serviteurs qui aiment à te vénérer. De grâce, fais réussir aujourd'hui la démarche que je vais entreprendre et que cet homme m'accueille avec compassion. Or, à cette époque, j'étais chargé de servir les boissons à la table de l'empereur. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu, et je vais prier. Seigneur mon Dieu, merci pour ta parole. Seigneur, je veux croire que par ta parole, tu t'es révélé. Et tu veux que ta parole soit claire pour chacun de nous. Et tu veux que chaque jour, nous puissions y puiser, nous y ressourcer, comprendre ce que tu veux pour nous, quelle est ta volonté. Que Seigneur, nous trouvions dans ce texte de Néhémie de quoi avancer et vivre chaque jour une vie conforme à ce que tu nous demandes. Oui, Seigneur, ouvre nos yeux, ouvre notre cœur pour que nous comprenions ce que tu veux nous dire aujourd'hui. En ton nom, je t'ai prié. Amen. Le texte commence à la première personne. Je, moi, Néhémie, je. Assez rare pour un texte biblique de commencer par la première personne. Néhémie nous parle. Néhémie, est-ce que ça, vous savez ce que ça veut dire ? Néhémie. L'Éternel console. C'est beau comme prénom. Je ne connais pas beaucoup de personnes qui s'appellent Néhémie. Un personnage hors du commun. On a vraiment à apprendre de lui. Pas un prophète, pas un enseignant renommé, pas un grand meneur de foule, un simple homme au service d'un roi. Un échanson. Qu'est-ce que c'est qu'un échanson ? Un goûteur de vin. Pas mal comme boulot. Pour certains, peut-être. Un espèce de majordome dont le travail était de se sacrifier à la place du roi au cas où on mettrait du poison dans le vin. C'est lui qui goûtait d'abord pour bien vérifier qu'il n'y avait pas de poison dans le vin. Bon, il y avait une histoire de goût sûrement aussi. Il devait choisir les meilleurs vins. En tout cas, il avait une place privilégiée. Généralement, les échansons, c'était des personnes qui avaient une confiance totale, enfin, dont le roi avait une confiance totale en eux. Ils étaient même certains des confidents. Ils étaient même certains des favoris du roi, donc ils avaient vraiment une place d'honneur. Ils avaient même certains une certaine influence sur les décisions politiques du pays. Comme c'était des confidents, le roi se confiait souvent à eux. Une situation idéale pour la suite. Effectivement, il y a des situations que Dieu permet. Il y a des métiers dans lesquels le Seigneur nous emmène pour que nous puissions influencer dans un sens ou dans un autre et être utile pour lui. Pour Néhémie, il est certain que cette place-là, elle n'était pas anodine. Dieu avait choisi de le placer là. Dieu allait utiliser le travail de Néhémie pour sa gloire. Et donc Néhémie apprend par Hanani, son frère, qui revient juste de Jérusalem, que les Juifs qui sont revenus de captivité sont bien à Jérusalem, mais qu'ils sont dans le déshonneur, dans l'humiliation. Parce que même si le temple est reconstruit, la muraille est complètement détruite, il y a des brèches et les portes sont entièrement brûlées. Je ne sais pas si vous vous êtes posé la question, mais qu'est-ce qui fait qu'on se met dans cet état-là alors qu'on apprend qu'il y a des murailles qui sont détruites ? En fait, ça fait 142 ans qu'elles sont détruites, ces murailles. Donc c'est étonnant. que Néhémie réagisse aussi fort, alors que les murailles, on le sait, elles sont détruites déjà depuis longtemps. Nabucodonosor a tout détruit lorsqu'il a emmené les Juifs en déportation. Donc ça ne devait pas être nouveau. En fait, ce que comprend Néhémie, c'est qu'il sait qu'Esdras est déjà à Jérusalem. Et il sait qu'il était là-bas pour reconstruire la ville entière. Mais il apprend que cet élan de construction qui avait commencé a été arrêté. Il a été stoppé net. Il s'est passé quelque chose. Il y a eu un réveil, il y a eu quelque chose qui a commencé, mais ça s'est arrêté. Ils se sont fait avoir, ils se sont fait écraser, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a eu un problème. Par qui, par quoi ? Des circonstances défavorables, peut-être des ennemis ? C'est ce qu'il va chercher à savoir plus tard. Le problème principal pour Néhémie, c'est que le mur a des brèches. Les murs ont des brèches. Il faut bien comprendre ce sens des brèches. On sait qu'une muraille sert à protéger des ennemis. C'est un fait. C'est sa première fonction. Donc, quand des ennemis veulent attaquer une ville, la première chose qu'ils cherchent à faire, c'est de faire des brèches. Ils cherchent à rentrer par n'importe quel moyen au travers de la muraille, avec des béliers, avec des engins, etc. Il y avait beaucoup de choses qui étaient construites pour ça. Parce qu'ils savent que s'ils peuvent rentrer dans la brèche, la ville est conquise. C'est fait. Ils n'ont même pas besoin de tout détruire. La muraille, entièrement. Il suffit d'une brèche. Ils rentrent dans la brèche et là, c'est fini. Or, aujourd'hui, à Jérusalem, les murailles ne protègent plus du tout la ville. Elles ne servent à rien, parce qu'il n'y a que des brèches. Et les portes sont toutes brûlées, il n'y a plus de portes. Donc facile pour n'importe quel ennemi de venir et de conquérir Jérusalem, il n'y aura aucune résistance. Et parfois même, je pense, sans utiliser la violence, il pourrait, n'importe quel roi, par qui il passe par la tête de vouloir conquérir Jérusalem, pouvait le faire. Voilà ce qui place les personnes qui habitent Jérusalem dans une position particulièrement humiliante. C'est une honte que Jérusalem soit sans murailles. Parce que peut-être que toutes les villes autour avaient des murailles et étaient fortifiées, et on ne pouvait pas les attaquer. Mais Jérusalem n'a plus rien pour se protéger. C'est une humiliation publique pour les Juifs. Et nous ? Quand on réfléchit à la vision d'une Église, on est obligé de faire un constat. Comment est l'Église aujourd'hui ? Comment est notre Église ? Si vous êtes en visiteur ici pour la première fois, ou si quelqu'un viendrait dans cette salle, il dirait que le bâtiment est super, il a été bien rénové, on a de la place, on a de l'équipement, on a tout ce qu'il faut pour la musique. On a un terrain immense qui est bien entretenu. On a des salles d'école du dimanche, on a des bâtiments. Beaucoup d'églises n'ont pas tout ce que nous avons. Beaucoup d'églises cherchent un bâtiment. Beaucoup d'églises arrivent tout juste à se réunir dans une salle municipale, peut-être trop petite pour eux. Nous avons de la place, merci Seigneur, pour ces bâtiments, ces outils que tu mets entre nos mains. Si vous interrogez une personne qui est là depuis longtemps, elle vous dira que ça n'a pas été toujours le cas. Qu'il y a eu un petit bâtiment au début. Qu'il a fallu travailler dur pour y arriver. Il a fallu mobiliser des forces, des finances. Et puis que ça n'a pas été facile tous les jours non plus. Il n'y a pas que les bâtiments. Il y a aussi nous, en tant qu'Église, nous formons l'Église. De l'extérieur, les gens qui passent dans la rue pourraient dire « Ah, ça, c'est une assemblée qui s'aime, qui prend soin les uns des autres, qui a du plaisir à se retrouver. » Mais ça, c'est la vision de l'extérieur. On sait que de l'intérieur, ce n'est pas toujours le cas. Il y a des faiblesses, il y a des déchirements. Il y a des incompréhensions, il y a des paroles déplacées, ça arrive. Mais il y a aussi des réconciliations. Il y a aussi des demandes de pardon. On a tous à progresser dans ce domaine, et moi le premier. Mais il est bon de faire le constat de qui nous sommes en tant qu'Église. Il y a des bénédictions, mais il y a aussi des brèches. Il y a des brèches dans nos relations. Et nous savons que l'ennemi de nos âmes n'attend que les brèches pour s'y engouffrer. Nous le savons. L'ennemi de nos âmes sait bien les utiliser, les brèches. Il sait s'y engouffrer pour les agrandir. Parce que ce qu'il veut, son objectif, c'est de prendre place à l'intérieur de notre ville, à l'intérieur de notre église, et de régner dans notre communauté, mais nous ne le voulons pas. Nous ne le voulons pas. Et comme Néhémie, ce constat peut faire mal de voir qu'il y a des brèches. Voilà le constat que fait Néhémie. D'abord, ça lui fait mal. Et puis après, il y a une prise de conscience. Néhémie pleure. Il laisse exprimer ses émotions. On peut franchement se poser la question, pourquoi Néhémie réagit comme ça? Pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça? Aujourd'hui, si on part en voyage, quelqu'un vous dit, j'ai été visiter les ruines de Jérusalem. On dit, oh, mais moi aussi, j'aimerais bien aller voir les ruines de Jérusalem. Je ne sais pas qui a déjà été voir Jérusalem. Et c'est intéressant de visiter les ruines de Jérusalem. Alors pourquoi Néhémie se met à pleurer? Pourquoi est-ce qu'il pleure? Jérusalem ne lui appartient pas. Il n'a même jamais été à Jérusalem. En tout cas, il n'a jamais vécu à Jérusalem. C'est, effectivement, ils sont dans une grande misère, toutes les personnes qui sont là-bas, en tout cas dans l'humiliation. Et lui, il est bien confortable. Et chanson du roi, il a une place de choix. Il a tout le confort qu'il veut. Oui, Néhémie se met à pleurer sur une situation qui n'est pas la sienne. Néhémie était dans une situation confortable, mais d'un seul coup, c'est son identité qui parle. C'est sa relation à Dieu qui est en cause. Néhémie est ému jusqu'au plus profond de lui-même. Ce n'est pas juste une information qui est restée au niveau de son intelligence, mais c'est descendu au cœur, c'est son cœur qui parle. Parfois, la situation des autres nous touche au plus profond. Parfois, quand on visite des pays particulièrement en difficulté, on est touché par la situation des gens. Peut-être ça peut être quand vous regardez la télévision et que vous voyez un bateau de migrants traverser la Méditerranée et qui, en traversant, coule et meurt. Ou des chrétiens persécutés en Iran qui se font décapiter. Ça nous touche particulièrement. Est-ce que ça vous arrive? Je me suis posé la question, à quand remonte la dernière fois où j'ai pleuré, où j'étais particulièrement affecté sur une situation qui n'était pas la mienne? En tant que chrétien, on est touché par ce que vivent les chrétiens. En tant qu'être humain, on est touché par ce que les autres êtres humains vivent. Mais on n'a pas besoin d'aller si loin pour être sensible à la situation des autres. Il y a aussi dans notre Église. Est-ce qu'il y a des besoins ou est-ce qu'il y a des problèmes dans l'Église qui vous font avoir la même réaction que Néhémie, qui nous affectent au point de nous faire pleurer? Et une fois que Néhémie a entendu le rapport de son frère, il a cette vision en tête des remparts détruits, de ses portes incendiées, et puis ça reste devant ses yeux, et puis ça persiste. Et pendant plusieurs jours, il va repasser cette vision, il va y réfléchir, il ne peut pas l'oublier. Jour et nuit, il va y penser. Jour et nuit, il se met à jeûner, il se met à prier son Dieu. Dieu, est-ce qu'il est ignorant de tout cela? Est-ce que du haut de son ciel, il est insensible à la douleur de Néhémie? Est-ce que Dieu est au courant que les murailles de Jérusalem sont détruites? Que fait Dieu? Où est Dieu? Si Dieu existe, pourquoi tant de souffrances? Pourquoi tant d'injustices? C'est la question que le monde entier se pose. Si Dieu existe, qu'est-ce qu'il fait? On veut le voir. En réponse à ça, j'ai qu'une seule question. Est-ce que vous connaissez Dieu? Est-ce que vous le connaissez? Le connaissez-vous suffisamment bien? Savez-vous de quoi il est capable? Pensez-vous vraiment qu'il est en train de se prélasser là-haut, confortablement installé sur ses nuages, à regarder les hommes s'entretuer et être dans le malheur? Est-ce que Dieu ne fait rien? Si vous le connaissez, il y a des versets qui doivent vous apparaître. Des versets clairs, précis. Exode 3, verset 7. L'Éternel dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. » Ésaïe 30, verset 18. « Cependant, l'Éternel n'attend que le moment de vous faire grâce. C'est pourquoi il se lèvera pour vous manifester sa compassion. En effet, Dieu, l'Éternel, est un Dieu d'équité. Heureux tous ceux qui comptent sur lui. » Psaume 86, verset 15. « Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. » Psaume 116, verset 5. « L'Éternel fait grâce et il est juste. Notre Dieu est rempli de compassion. » Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous connaissez Dieu? Néhémie connaissait Dieu. Néhémie savait qu'il ne laisserait pas les choses comme ça. Néhémie savait que si cette vision de Jérusalem détruite le touchait à ce point-là, c'est que Dieu voulait l'utiliser pour aller reconstruire cette muraille de Jérusalem. Et quel a été le premier réflexe de Néhémie? Est-ce qu'il a pris le premier avion pour Jérusalem? Il n'y avait pas d'avion à l'époque. Première réaction, il s'est mis à genoux. Il s'est mis à genoux. Il a commencé à prier. Et Néhémie nous présente une prière qui est un modèle pour nous. C'est un vrai modèle de prière. Regardez comment se déroule cette prière. Voilà quatre lettres que je vous propose de retenir, qui résument la prière de Néhémie. Je l'ai appelée ACIP. Facile à retenir pour vous qui priez tous les jours, plusieurs fois par jour, chaque minute, chaque seconde, qui priez sans cesse. Vous priez sans cesse. ACIP, adoration, confession, intercession et passage à l'action. Adoration, confession, intercession et passage à l'action. Peut-être certains d'entre vous pensent qu'ils n'ont rien à apprendre, à apprendre de la prière. En matière de prière, j'aimerais vous dire que il est possible que vous vous trompiez. On a toujours à progresser dans nos prières. On a toujours à apprendre plus comment faire pour prier le Dieu des cieux. Sinon, Jésus n'aurait jamais appris à prier à ses disciples. Sinon, Paul n'aurait jamais dit dans ses épîtres, priez sans cesse, persévérez dans la prière. C'est qu'il y a quelque chose à faire avec la prière. On a à progresser dans notre manière de prier. Néhémie a prié parce qu'il avait ce profond désir de répondre à l'appel de Dieu. Néhémie savait prier. Voilà comment commence sa prière, par l'adoration. L'adoration, c'est le premier temps de la prière. Néhémie, en commençant sa prière, dit « Qui est Dieu ?» C'est un excellent moyen de commencer ses prières. Dieu, tu es. Dieu, pour moi, tu es. Néhémie dit, Dieu du ciel, grand et redoutable. Il ne minimise pas Dieu. Néhémie n'a jamais minimisé Dieu, au contraire. Il le replace là où il est. Tu es grand et tu es redoutable. Dieu n'est pas son pote, un copain, à qui il dit rapidement deux, trois choses. Dieu est grand et redoutable. Dieu peut faire mourir qui il veut, quand il veut. C'est lui qui décide. Il est souverain sur chaque situation. Mais Dieu est fidèle à son alliance. Dieu a compassion de ceux qu'il aime et qui obéissent à ses commandements. Ça, Néhémie en est sûr. Et nous, est-ce qu'on en est sûr? Quelle conviction avons-nous sur Dieu? Sommes-nous persuadés qu'il est souverain? Sommes-nous persuadés qu'il est fidèle, qu'il a compassion de ceux qu'il aime, pour ceux qui obéissent à ses commandements? C'est une question que nous avons à nous poser chaque jour. Et puis vient le temps de la confession, verset 6. J'aimerais qu'on s'entende bien sur la définition de la confession. Je ne veux pas prendre la définition du dictionnaire. Je veux prendre la définition biblique. Il ne s'agit pas de déballer toutes ses fautes à un prêtre ou à n'importe qui pour obtenir le pardon de ses péchés. On est bien d'accord, ce n'est pas le message de la Bible. La définition biblique de la confession, c'est que la confession ne nous apporte pas le pardon. La confession ne sauve pas, c'est Jésus qui sauve. Uniquement Jésus. C'est lui qui pardonne. Vous savez ce que ça veut dire confession en grec? Comment on dit confession en grec? Homologeo. Homologeo, ça veut dire la même chose. Quand on se confesse, on dit la même chose. Étonnant. En fait, ça veut dire admettre. Ça veut dire oui, t'as raison. J'ai tort. Et tu as raison. Je veux dire la même chose que toi. C'est ça que ça veut dire, se confesser. Je veux dire la même chose que toi, Dieu. Je veux être en accord avec toi. Tu as raison, Seigneur. Je suis à côté de la plaque. Ce que je dis, c'est pas bien. Ce que je fais, c'est pas bien. Mais toi, tu m'as dit ce que je dois faire et dire. Toi, tu as horreur du péché. Alors je le veux, moi aussi, avoir horreur du péché. Tu veux que le péché sorte de moi, alors je le veux aussi. Je veux dire la même chose que toi. La confession, c'est vraiment reconnaître que j'ai eu tort, que je n'ai pas fait ce que Dieu demandait. Et c'est exactement ce que fait Néhémie. Néhémie dit, on a péché contre toi, nous sommes coupables, nous avons désobéi. C'est une affirmation. On a fait ce qu'il ne fallait pas. On n'a pas dit la même chose que toi. Est-ce qu'on est capable de dire ça dans nos prières? Est-ce qu'on est capable de dire j'ai eu tort? Seigneur, j'ai eu tort. Je me suis planté. J'ai vraiment pas fait ce qu'il fallait faire. C'est ça la confession. Et puis l'intercession. Après ce temps de confession, vient l'intercession qui est une demande pour quelqu'un d'autre. Intercession n'est pas pour soi-même. Intercession est toujours pour les autres. Et l'intercession est toujours basée sur la parole de Dieu. Néhémie dit ceci, « Souviens-toi, Dieu, de tes promesses. Souviens-toi de ce que tu as dit. » Pas que Dieu oublie quoi que ce soit. C'est plutôt Néhémie qui se rappelle. Néhémie s'appuie sur les promesses de la Bible. Néhémie s'appuie sur la parole de Dieu pour conduire son intercession. Il s'appuie sur l'alliance que Dieu a faite avec Moïse. Et on retrouve cette alliance dans Lévitique 26, dans Deutéronome 4, 28 et 30. On la connaît, cette alliance. Et je veux juste vous relire celle de Lévitique 26 qui dit ceci. « Et pourtant, même alors, lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai pas. » Et je ne les prendrai pas en aversion au point de les exterminer et de rompre mon alliance avec eux. Car je suis l'Éternel, leur Dieu. J'agirai en leur faveur conformément à l'alliance conclue avec leurs ancêtres que j'ai fait sortir d'Égypte aux yeux des nations pour être leur Dieu. Je suis l'Éternel. Néhémie s'appuie sur une seule chose, la seule chose qui peut être solide, la grâce de Dieu. Sa grâce. Il sait qu'il peut compter sur Dieu pour sa requête. Il ne met pas en avant ses forces, ses capacités, sa situation sociale, son intelligence. Il dépend totalement de Dieu. Il sait que seul Dieu pourra faire réussir son entreprise. Et le dernier point, c'est le passage à l'action. Voilà le but de la prière. La dernière phrase de sa prière, la finalité de sa requête. Néhémie veut aller voir le roi, Artaxerxès, pour lui demander un congé pour pouvoir partir à Jérusalem pour reconstruire la muraille. Il ne sait pas comment il va faire. Il ne sait pas s'il aura les matières premières, s'il aura les ouvriers, si ça va être facile, difficile, il n'en sait rien. Il ne sait même pas comment va réagir le roi. Le roi peut le supprimer immédiatement, juste pour cette demande-là, pour avoir osé s'adresser au roi. Le roi pourrait lui dire « décapitez-le » et ce serait fait dans la seconde. Il risque sa vie en allant parler au roi. C'est pour ça qu'il prie. Et avant de passer à l'action, avant d'y aller, il demande à Dieu « Seigneur, incline le cœur du roi, qu'il m'écoute. » Il veut respecter son souverain terrestre parce qu'il sait qu'il est dépendant de son souverain céleste. Il veut respecter son boss, son chef. Il sait que cette vision d'aller reconstruire la muraille est bien plus grande que tout ce qu'il fait aujourd'hui. Il sait que ça ne vient pas de lui, que ça vient de Dieu. Alors il demande une chose concrète, il demande très précisément « Fais réussir mon entreprise et que le roi m'accueille avec compassion. » C'est très précis. Il n'est pas dans le vague. Précisément, il demande à Dieu « Fais réussir mon entreprise. » Incline le cœur du roi. J'ai besoin de ça, que tu le fasses maintenant. Comment Néhémie a prié ? Il a reconnu Dieu tel qu'il est. Il a montré qu'il était totalement dépendant de sa grâce et de ses promesses. Alors maintenant, il fait une demande précise sur ce qu'il va faire. C'est comme ça que nous devons prier. Nous devons commencer en adorant, confesser ce qui nous sépare de Dieu, notre péché, puis intercéder pour les autres en nous appuyant sur les promesses de Dieu et enfin passer à l'action en étant précis et clair sur ce que nous demandons à Dieu. Pour conclure, j'aimerais dire ceci. Ce que nous avons appris aujourd'hui sur Néhémie a une portée beaucoup plus lointaine que ce que nous pensons. Il existe un plus grand Néhémie. Un homme qui, lui aussi, a été ému jusqu'aux larmes devant Jérusalem. Un homme qui, lui aussi, a été ému de compassion devant les êtres humains. Un homme qui a été jusqu'à se donner entièrement à la croix. Pour sauver chaque être humain, c'est Jésus-Christ. Lui aussi voulait le bien de son peuple. Dieu, du haut du ciel, a vu la souffrance des hommes. 4 à 5 siècles après Néhémie, le Fils de Dieu, Jésus, il voyait ce peuple sans berger, sans but, qui errait, qui souffrait. Lui aussi, il a été ému de compassion jusqu'aux larmes. Et c'est Luc 19 qui nous le dit. Quand il approcha de la ville et qu'il la vit, Jésus pleura sur elle. Et il dit, si seulement tu avais toi aussi reconnu aujourd'hui ce qui peut te donner la paix, mais maintenant cela est caché à tes yeux. Des jours viendront pour toi où tes ennemis t'entoureront d'ouvrages fortifiés, t'encercleront et te serreront de tous côtés. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas reconnu le moment où tu as été visité. Qui a visité Jérusalem ? Jésus-Christ, lui-même. Quelques jours après, il mourait sur la croix. Pour Jérusalem, pour les êtres humains, pour toute la population de Jérusalem et le monde entier. Mais nous le savons, il est ressuscité. Il est ressuscité. Jésus offre bien plus que la reconstruction d'une muraille. Jésus offre bien plus que de combler les brèches pour empêcher l'ennemi d'entrer. Jésus offre la vie éternelle. La vie à laquelle chaque être humain aspire. Personne ne veut mourir. Personne ne veut souffrir éternellement. Jésus-Christ nous offre la vie éternelle. Il suffit de l'accepter avec un cœur sincère, de venir vers lui avec un cœur humble dans la prière. Avec Néhémie, ce matin, nous avons eu une leçon de prière. Pour ce qui concerne la vision de notre Église et là où nous allons aller, commençons par prier dans ce sens. Apportons notre adoration à Dieu, notre reconnaissance pour qui il est, ce qu'il fait dans nos vies. Humilions-nous devant lui, reconnaissons nos fautes et nos erreurs, reconnaissons nos péchés, renonçons à toute action mauvaise, à toute parole déplacée, cherchons la face de Dieu. Intercédons les uns pour les autres en nous appuyant sur ses promesses, sur sa grâce qui est infaillible. Dieu nous écoutera du haut du ciel. Dieu nous entendra. Il nous pardonnera. Il nous guérira. Il nous guidera. C'est en lui que notre espoir est placé. Et nous avons chanté ce chant et j'aimerais juste donner la référence de 2 Chroniques 7:14. Qui prend tout son sens avec l'histoire de Néhémie. Si mon peuple, l'assemblée de l'église baptiste de Seloncourt, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai définitivement son pays. Amen. J'aimerais prier pour terminer. Père Céleste, merci. Merci pour ta parole. Seigneur, je te prie de nous aider dans notre vie de prière à être persévérants. Aide-nous, Seigneur, à progresser dans notre adoration. Aide-nous à progresser dans notre manière de te présenter chaque chose qui nous pèse. Aide-nous, Seigneur, à avoir des temps où nous sommes capables de nous mettre à genoux et de dire, Seigneur, je veux dire la même chose que toi. Parce que j'étais à côté. Aide-nous, Seigneur, à savoir confesser nos péchés de manière sincère et vraie, à être vrai devant toi. Et Seigneur, aide-nous à avancer aussi dans la construction de ton Église. Seigneur, c'est toi l'architecte, c'est toi qui protèges ton Église et qui la conduit. Et nous voulons nous confier en toi pour l'avenir. Nous savons, Seigneur, que nous sommes entre tes bonnes mains. Nous savons que nos vies sont entre tes mains. Et nous avons besoin, Seigneur, que tu nous aides et que tu nous inspires pour savoir où nous devons aller. Seigneur, devant cette vision de la muraille, nos cœurs sont déchirés aussi, parce que nous voyons le monde autour de nous, et nous voyons à quel point les brèches sont grandes ouvertes. Et Seigneur, nous te demandons que nous soyons des ouvriers actifs pour ton œuvre, à réparer les brèches, à parler de toi autour de nous, à dire combien tu es bon et que tu offres la seule chose qui est valable sur cette terre, c'est la vie éternelle avec toi, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur, aide-nous à avoir du zèle, à être des personnes d'encouragement, à être des personnes, Seigneur, qui sortent de l'ordinaire. Ne nous abandonne pas, Seigneur, à la dépression, à voir les choses négatives ou à râler. Aide-nous, Seigneur, à voir ce que tu fais et ce que tu vas faire. Ouvre nos yeux, Seigneur. Bénis-nous pour cette semaine qui est devant nous, Seigneur, que dans nos activités, notre travail, nos relations avec nos voisins, nos amis, nos collègues, Seigneur, que ce soit toi qui brilles au travers de nous. Donne-nous, Seigneur, d'être des artisans de paix, des ouvriers qui construisent au lieu de détruire, des ouvriers qui ont du zèle à ton service. Chaque instant de nos vies. C'est en ton nom que je t'ai prié pour ta gloire. Amen.